vous cinéma ce soir, je t'emmène.
Oh, je veux pas.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc.
On pourrait foutre le feu à la forêt pour les objets à sortir.
C'est pour le cinéma ou la télé ?
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est dans une émission spéciale Festival International du Premier Film et c'est la dernière interview pour laquelle on a la chance de recevoir Myriam Véraud. Bonjour.
Bonjour.
Alors Myriam vient présenter un film qui s'appelle Kwesipan. Pour raconter rapidement un peu, introduire ton histoire avant de faire ce film. Donc tu grandis dans la banlieue de Québec. Mm-hmm. Tu fais des études de journalisme. Tu co-réalises un film qui s'appelle « À l'ouest de Pluton » avec Henri Bernardet. Un documentaire web aussi. Alors, tu nous diras ce que c'est un documentaire web en 2011 qui s'appelle « Ma tribu, c'est ma vie ». Et ensuite, qui est sur les relations québécois-autochtones. Et ensuite, tu fais ton premier long métrage qui s'appelle Kwesipan et qui est aujourd'hui dans la compétition du Festival international du premier film. Alors, première chose, peut-être tu peux nous raconter quelle est l'histoire de ce film.
En fait, le film raconte une amitié entre deux jeunes Innus. Les Innus, c'est un peuple autochtone au Québec. Et avant, on les appelait les montagnais. Et depuis quelques années, ils veulent se faire appeler les Innus. Il ne faut pas les confondre avec les Inuits, qui habitent plus au nord du Québec et du Canada. Alors, eux sont plus au nord-est. C'était des nomades il n'y a pas si longtemps. Ils ont été sédentarisés à peu près dans les années 50 et 60. Et maintenant, ils habitent dans des réserves, sous une loi canadienne très vieille de 120 ans, ou la loi sur les Indiens, que ça s'appelle. Et ils sont sur des terres qui appartiennent à la reine d'Angleterre et ils sont considérés comme des mineurs et ils habitent sur des réserves. Et donc, il y a une réserve près de cette île qui est à l'est du Québec et environ à 12 heures de voiture de chez moi. Sur le bord du Saint-Laurent, du golfe du Saint-Laurent, la réserve de Ouachat et la réserve de Maliotenam. Et ces deux réserves sont à 15 kilomètres une de l'autre, près d'une ville de Blancs, de Québécois francophones. Et ces deux communautés, ils sont, sont une seule communauté. Ces deux réserves sont une seule communauté. Et ils sont environ 3000 et ils parlent toujours leur langue Innu. Ça s'appelle l'Innu Imun. Et puis, ils cohabitent avec les Blancs de cette île, mais en même temps, ils sont assez en vase clos. Et donc, ça raconte l'histoire de deux jeunes filles Innu qui grandissent ensemble dans la réserve de l'enfance à l'adolescence. Et c'est un parcours un peu en Y, parce qu'elles sont vraiment très, très soudées. Mais à un certain moment de leur vie, de leur adolescence, elles commencent à se rendre compte qu'elles ont des divergences de valeurs et d'opinions. Et une veut sortir de la réserve pour faire des études, et l'autre veut rester avec les siens. Donc voilà.
Ça, elles ont aussi deux parcours de vie très différents, c'est-à-dire qu'elles grandissent, elles deux, dans des familles opposées presque, j'allais dire, une avec très peu...
Oui, c'est ça.
Elles reçoivent peu, on va dire, en éducation, en amour, en attention, et une qui grandit dans un cadre...
Il y a Miquan, qui est le personnage principal, et Shanice, sa meilleure amie. Et Miquan a la chance d'avoir deux parents très, 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 très sains, très gentils, et puis qui ont des travails et tout. Et puis, donc, Shanice est souvent... à la maison comme une sœur. En fait, elle traîne là parce qu'elle n'a pas la chance d'avoir de père. Sa mère est assez dysfonctionnelle, donc elle grandit dans la famille de sa meilleure amie. C'est pour elle, la famille de Miquan, c'est un cocon pour elle. Et aussitôt qu'elle en sort, mais elle est dans la difficulté. Donc, et Shanice, justement, elle vit dans une situation qu'on retrouve quand même beaucoup là-bas. Elle a le profil de la fille au ventre rond, que je dirais, parce que dans le livre qui a inspiré le film, il y a un texte sur la fille au ventre rond, et c'est Naomi Fontaine, qui est une écrivaine, qui a écrit Kwesipan, qui est une Innu, et puis elle parle de toutes ses filles très jeunes qui ont des enfants. Parce que dans notre vision de Québécois blancs, on parle de maternité précoce, on voit ça comme un problème et tout ça, mais alors que dans leur culture, là-bas, c'est très normal, en fait, d'avoir des enfants très jeunes. Et elle en parle avec une tendresse et une normalité que j'ai trouvé très touchante. Et je voulais traiter de ce thème-là, parce que Shanice va finir par avoir un enfant à l'âge de 16 ans. Mais je voulais pas le faire d'une façon ethnographique, statistique, trouver ça, le traiter comme un problème, mais simplement, elle a un enfant, c'est tout.
Alors peut-être il faut qu'on revienne un petit peu en arrière pour vous, auditeurs, auditrices, qui n'avaient pas vu Kwesi Pan et qui auraient peut-être la chance de le voir ensuite, parce qu'il va sortir, voilà, une sortie nationale qui est prévue le 13 mai 2020. Donc je reviens un petit peu en arrière. Effectivement, tu expliquais hier que tu te sentais pas totalement légitime de faire ce film seule en tant que blanche québécoise et que du coup tu as cherché un chemin. Alors est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs auditrices comment tu as trouvé
Oui, alors peut-être que des gens ont vu mon premier film parce qu'il était venu ici au Festival de Annonay à l'ouest de Pluton, mais c'était une co-réalisation, donc c'est la raison pourquoi ils ont reprogrammé mon film, parce qu'ils considèrent que c'est mon premier film solo. Et donc dans ce film, on avait pris un lieu qui était la banlieue et des adolescents de cette banlieue, donc c'était la banlieue où j'avais grandi, donc on prend les vrais gens de ce lieu, on invente une histoire avec eux et c'est les gens du lieu qui vont jouer les rôles des personnages. Donc je voulais répéter un peu le même pattern. Donc quand j'ai découvert la réserve de Mayotenam, j'avais vraiment envie de connaître ces gens-là, et puisque je suis cinéaste, je me suis dit la meilleure façon, ben, c'est de faire un film. Mais je voulais pas faire un film sur eux, un documentaire ou ethnographique et tout, parce que il y en a beaucoup et je me sentais pas la légitimité de faire ça, j'avais pas de connaissances assez profondes pour faire ça, et j'avais simplement l'envie de les rencontrer, en fait. Alors je me suis dit, ben, je vais faire un film avec eux. Et je vais faire la même chose qu'avec À l'ouest de Pluton. Je vais prendre le lieu, les gens qui habitent le lieu, et puis ils vont jouer les personnages qu'on va créer ensemble. Par contre, c'est ça, je ne sentais pas cette légitimité d'écrire un scénario seul, parce que c'est ça, c'était un monde totalement étranger pour moi. Mais je savais qu'il y avait peu d'Innu qui faisaient du cinéma, en fait, il n'y en a pas. Et alors, je me suis dit, moi, c'est ce que je peux apporter. J'ai fait des études en cinéma, je connais le métier, mais je vais me lier à une artiste, à un artiste qui connaît l'intérieur, et puis ensemble, on va se mettre ensemble, et moi, je vais apporter mon métier, et elle va m'apporter toute la vision de l'intérieur. Mais j'ai cherché plein de choses, ça a été très long avant de trouver. Je trouvais des poèmes, des légendes anciennes sur la chasse, le nomadisme, et c'est très intéressant de connaître leur histoire, mais c'était pas ce que je voulais raconter. Moi, je voulais raconter une histoire avec une ambiance contemporaine. Je voulais voir les jeunes flâner ensemble dans la cour d'école, être sur leur téléphone, des trucs comme ça. Et c'est là que j'ai découvert le livre de Naomi, qui était sorti 6 mois avant, et je l'ai rencontré dans un salon du livre. Et je suis allée la voir, j'étais intriguée, j'avais lu un papier sur son livre, et elle m'a vendu son livre, et elle m'a dédicacé, et je savais pas que j'allais faire un film avec elle, et elle avait écrit « Pour la poésie qui crée des images ». Et j'ai encore cette copie. Et alors, je le trouve vraiment prémonitoire, cette dédicace. Et donc voilà, j'ai lu le livre à une soirée. C'est vraiment un magnifique livre. Vraiment beaucoup de poésie dans ce livre-là. C'est en prose, mais il y a des descriptions, il y a une naïveté, une lucidité extraordinaire. Et c'était une révolution dans la littérature québécoise, parce que c'était vraiment la première fois qu'on voyait, qu'on lisait une autochtone québécoise qui raconte qu'est-ce que c'est de grandir dans une réserve. C'est toujours des points de vue de spécialistes. Et donc, elle le faisait avec vraiment un don pour l'écriture. Et alors, je suis allée la voir. Je lui ai dit, veux-tu faire un film avec moi? Je pensais pas que son livre était adaptable, parce qu'il n'y a pas d'histoire dans son livre. C'est simplement des tableaux, des portraits, des descriptions. Mais toute l'ambiance était là comme des morceaux d'un puzzle qu'on pouvait prendre, choisir un peu à notre guise. Je lui ai demandé de faire le film avec moi. Elle était réticente un peu au début, justement parce qu'elle se disait, est-ce que cette fille est capable d'avoir le regard bienveillant sur ma communauté? Est-ce qu'elle va répéter les clichés? Et il y a eu beaucoup d'erreurs, je pense, dans l'histoire du documentaire ou du cinéma, même cinéma américain, cinéma hollywoodien, où on objectifie un peu l'autochtone. Et même des fois, il y a eu des erreurs comme on prend des gens qui ressemblent à des Innus, mais on va leur faire jouer des Innus alors qu'ils sont des Péruviens ou des Latinos. Donc, c'est vraiment des graves erreurs. Alors, je lui expliquais mon désir de faire quelque chose de très authentique et d'accepter un peu le chaos du fait que je prenais des acteurs non professionnels et j'allais accepter un peu leur façon de parler, leur manière d'être et tout ça. Et je pense que c'est cette démarche-là qui l'a touchée. Et elle voyait l'opportunité pour les gens de sa communauté de se faire voir et puis de s'exprimer et de se voir à l'écran, parce qu'ils ne se voient jamais à l'écran. Donc, je pense qu'à partir du moment qu'ils se voient à l'écran, ils existent pour le monde. Donc, elle était assez enthousiaste quand elle a compris que je voulais leur faire toute la place, finalement. Et ça a été un processus très long. Elle m'a invitée chez elle, dans sa communauté. Et à l'été 2012, j'ai passé un été avec elle là-bas. Et j'étais partie pour écrire. Mais on n'a pas écrit une ligne, finalement. On a simplement flâné à la plage, rencontré des gens, boire avec des amis, aller voir des musiciens, des trucs comme ça. Et c'était vraiment un été extraordinaire sur le bord de la mer. Et, mais quand je suis revenue, il fallait que j'écrive le scénario, mais j'étais imprégnée de vraiment des gens, de tout ça. Je suis retournée à Montréal, j'ai commencé à écrire, mais le processus a duré 4 ans. Donc, parce qu'à cause des refus au financement.
Il faut que vous sachiez, auditeurs, auditrices, que si vous allez voir ce film, c'est un film qui a mis 8 ans à se faire. Hein. C'est ce que tu confiais hier au public. Tu n'es pas la seule. Il y a un autre film, Jumbo, dont la réalisatrice a également mis 8 ans. Je crois qu'on nous confiait aussi au micro que La dernière vie de Simon avait mis 7 ans à se faire. Donc voilà, c'est...
C'est un processus qui est très frustrant en cours de route. Et vraiment, j'ai encore des frustrations par rapport à ce parcours-là, du fait d'avoir des refus des institutions et tout. Mais par contre, ben, je suis rendue plus vieille, je suis plus sage et je suis capable d'avoir un recul. Et je pense quand même qu'il y avait du bon dans le fait d'avoir pris 8 ans pour le faire. Parce que je crois que c'est un genre de film qu'il faut qu'il prenne son temps. Je pense pas qu'on peut, parler avec eux, sur eux ou à propos d'eux en les connaissant à peine quelques mois.
Alors justement, le film est sorti au mois d'octobre, je crois, début octobre au Québec. Quel écho là-bas, quelle présence, comment ça a été accueilli?
C'est extraordinaire. Ce qui se passe présentement avec le film au Québec, c'est extraordinaire. Je suis vraiment comblée. Et puis les Inuits, pour eux, c'est une fierté. Et en fait, les critiques étaient super bonnes. Et je crois que pour ce genre de film d'auteur avec des acteurs non professionnels, il a très bien fait au box-office. Et dans la région où les Inuits habitent, il est resté très longtemps, plus longtemps que des films comme le Joker, des trucs comme ça, parce qu'ils vont le voir plusieurs fois. Ils sont des fans du film. Et pour eux, c'est leur film parce qu'ils sont partout dans le film. C'est eux, c'est la communauté. C'est parce que quand vous allez voir le film, c'est pas juste les acteurs ou les personnages, mais on voit vraiment toute la communauté au complet. Donc, il y a beaucoup de figurants. Et donc, les gens ont participé avec beaucoup d'enthousiasme à toutes les scènes de figuration. Alors, ils ont tous une amie, un cousin ou eux-mêmes dans le film. Donc, quand j'ai vu le film avec eux, c'était vraiment rigolo parce que à toutes les 2 minutes, on entendait quelqu'un dire « Hey, c'est elle! Hey, c'est moi! Hey, » Et puis, ils sont fiers. Puis, je pense que les gens pour qui la réconciliation et les ponts entre les non-autochtones et les autochtones au Québec, c'est important, ben, eux voient ce film comme un premier jalon d'une façon de collaborer. Parce que, en fait, il faut savoir aussi que mon film arrive à un moment post-crise. C'est qu'il y a eu une crise énorme il y a un an et demi environ au Québec. C'est qu'un metteur en scène très connu qui s'appelle Robert Lepage, que vous connaissez peut-être, qui s'était associé au Théâtre du Soleil à Paris et a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Kanata à Paris, au Théâtre du Soleil. Et puis, ça raconte l'histoire des autochtones, des Indiens d'Amérique, bref. Et il n'y avait aucun acteur autochtone. Et ce que les gens disent, c'est qu'ils n'ont pas vraiment été consultés. Alors, rapidement, il y a eu des accusations d'appropriation culturelle et ça fait un gros tollé, en fait, dans les médias, parce qu'il y a des médias de droite qui disaient que les militants de gauche étaient vraiment un peu, avaient la peau trop sensible, qu'on a le droit de faire raconter les histoires qu'on veut et tout ça. Et les gens, parce que je suis blanche, que je faisais un film avec des Inuits, croyaient que j'étais plutôt d'accord avec les gens de droite qui disaient qu'on peut raconter ce qu'on veut finalement. Et, Ben, j'étais, je pense qu'il n'y a pas du noir, il n'y a pas du blanc, mais en fait, j'étais plutôt d'accord avec les accusations, même si je pense que Robert Lepage et le Théâtre du Soleil ont été un peu les victimes d'une tempête parfaite, parce que c'est le genre de projet qu'on voit partout et depuis des années, et personne n'en parle. Mais là, tout à coup, il y avait comme une énergie de militantisme et c'est tombé sur eux. Alors, je pense que les accusations étaient assez acerbes envers eux. Je ne pense pas qu'ils méritaient ces accusations de racisme et tout ça. Mais en même temps, il y avait une vraie réflexion à faire. Et dans toute la différence avec le projet qu'on faisait, c'est que c'était un projet qui était avec eux et complètement avec eux, en acceptant absolument tout du fait qu'on travaille avec 100% des acteurs innus. Et je pense que le fait qu'il y a eu un certain succès, autant chez les Québécois que chez les Innus, ça a un peu réconcilié les artistes aussi blancs, parce que c'est comme si tout à coup on avait peur d'affronter des sujets, on ne peut plus toucher à tel sujet ou tel sujet parce qu'on est blanc et tout ça. Et puis, tout à coup, il y a un exemple d'un projet qui fonctionne, où on peut le faire quand même, et tout est dans la façon, tout est dans la manière. Et je pense que ça fait du bien, en fait. Ça a montré qu'il n'y avait pas d'interdit. Pendant la crise, j'étais en montage, donc je me posais énormément de questions, j'étais dans le doute et tout. Et en fait, c'est les Innus qui me disaient de ne pas arrêter de faire le film, parce qu'eux voulaient que le film sorte. Et ils me disaient que c'était justement, c'était dans
c'était
la façon.
C'était leur chance à eux de pouvoir, au contraire, être visibilisés, oui. Justement.
Et en fait, l'appropriation culturelle, pour eux, ce n'était pas vraiment ça le problème. En fait, le problème, c'était l'inclusion. C'était le fait... En fait,
d'être participant.
Tu peux parler de moi, mais invite-moi. Invite-moi à en parler avec toi. Et puis, moi aussi, je veux jouer. Moi aussi, je veux être payé comme acteur. Je veux jouer au théâtre. Je veux participer à la vie culturelle de la société. Je ne veux pas être reclus et qu'on parle de moi comme un objet.
Alors, on va y revenir. Justement, je vais citer les acteurs, actrices, en tout cas, les principaux. Donc, il y a Sharon Fontaine, Ishpatao, merci. Il y a Yamine Grégoire et Cédric Ambroise, pour les principaux acteurs et actrices, parce qu'après, il y en a énormément. Ça me donne l'occasion de revenir un peu sur Kwesi Pan et ce film où il est question de quotidien, justement, effectivement. Voilà, dans tout ce que tu as dit, on peut le deviner, mais il y a vraiment cette envie d'être présent dans leur maison, avec eux, dans leur quotidien. Voilà, on suit particulièrement donc Mikwan.
Exact.
Qui va à des ateliers d'écriture et qui rencontre un jeune blanc. Alors aussi, ça, est-ce que c'est le choix principal pour parler de cette problématique, d'avoir créé cette histoire d'amour un peu mélo, mais qui tisse dans le film aussi, qui soulève un problème, enfin une problématique.
Oui, effectivement, mais en même temps, c'était pas l'idée de départ. L'idée de départ, c'était vraiment l'idée d'amitié qui a conduit le projet depuis des années. Et même à un tel point que le personnage de Francis est arrivé très tard dans l'écriture, genre après le troisième refus des institutions. Alors je me suis dit, bon, ils veulent peut-être un blanc dans l'histoire, je vais leur en donner un. Peut-être que ça les dérangeait, mais moi au départ, je voulais vraiment me concentrer sur les filles. Et bon, ben, je crois que ça a amené quand même narrativement quelque chose d'intéressant d'avoir le chien dans le jeu de quilles. En même temps, je pense que c'était intéressant de parler de cohabitation. Parce que j'avais vu un film aussi au Québec avec des Atikamekw, et c'était vraiment un super beau film de Chloé Lerich, Avant les rues, et elle parlait d'une réserve, mais qui était vraiment très isolée. Et quand j'ai vu ce film-là qui est sorti juste avant le mien, je me suis dit, avant que je tourne le mien, je me suis dit, quand même, la particularité de la communauté à laquelle je m'intéresse, c'est qu'elle est comme un ghetto dans la ville de Blanc, alors que elle, la réserve dont elle parlait, elle était vraiment isolée. Et donc, le fait que c'est un ghetto dans une ville, ça fait que quand on va au restaurant, on va au McDonald's, on va au Walmart, ils sont toujours un à côté de l'autre. Il y a une table de Blanc et une table d'Innus. Et donc, ils vivent vraiment dans la même ville, mais en même temps, ils ne se parlent pas vraiment. Donc, je me suis dit, non, c'est quand même un sujet que je ne dois pas rater, la cohabitation. Il y a même une rue à cette île qui s'appelle la rue de la Réserve. Et c'est vraiment une rangée de maisons et une rangée de maisons qui se font face. Et une, c'est la rangée des Blancs et l'autre, c'est la rangée des Innus. Et tu vois la différence les maisons sont très différentes. Il y a les maisons de blancs très riches et tout ça, et les maisons plus modestes qui font face. Donc, moi, ça m'a vraiment frappé, ça. Je me suis dit, OK, c'est quand même particulier à cette ville. Et le fait de mettre un personnage de Québécois blanc qui habite à 2 minutes de la réserve, mais qui n'a jamais mis les pieds sur la réserve, je trouvais que ça parlait beaucoup. Mais en même temps, ce personnage-là, il n'est pas non plus... il n'est pas méchant, il n'est pas naïf, ou il est seulement... The normal guy, the average guy. Puis je trouvais ça intéressant que finalement, Miquan, elle a une meilleure amie qui est Inou, mais elle avait comme beaucoup plus d'affinité avec lui qu'avec son ami finalement, parce que c'est une. Elle s'intéresse à l'écriture, elle s'intéresse aux arts et lui aussi à la philosophie. Et même s'ils sont de deux univers différents, ils trouvent vraiment.
Des points communs.
Voilà.
Tu dois être très heureuse que le film sorte à l'international aussi. Enfin, j'imagine, et aussi les personnes qui ont participé à ce film, enfin, l'ensemble de l'équipe, j'imagine, pour visibiliser comme ça
ah oui. ah non, une ils font
communauté
beaucoup de blagues.
Peu connue.
Ils disent qu'on va venir coloniser l'Europe. Parce que les Inuits, ils sont assez fiers de venir en Europe. On a participé au festival du film francophone de Namur en Belgique. Et je ne pouvais pas y aller parce que c'était la sortie au Québec et j'ai envoyé deux acteurs, le frère, le Mitchell, celui qui joue le frère de Miquan et celui qui joue le copain de Shanice. Et les deux, c'était la première fois qu'ils voyageaient, qu'ils prenaient l'avion même. Et puis ils sont allés à Namur en Belgique et pour eux, c'est ça, c'était comme revenir chez les colonisateurs.
Pourquoi ce film s'appelle Kwesipan?
En fait, c'est le titre du livre dont on s'est inspiré. Kwesipan, et ce mot Inou veut dire à ton tour ou à toi. Et Naomi Fontaine, l'écrivaine, elle l'a utilisé dans le sens de à mon tour. C'est à mon tour de parler. C'est à mon tour de parler pour les miens. Et je pensais changer le titre pour plein de raisons et pour pas nécessairement qu'on compare le livre au film et parce que des gens au marketing me disaient que c'était un titre un peu compliqué, que les gens allaient pas retenir tout ça, mais ça me dérangeait un peu moins parce que j'étais très fière de mettre un mot en Inou. Mais Naomi me disait que le fait que j'avais fait le film, c'était un peu comme si elle me passait le bâton de parole et puis elle me disait « OK, c'est à ton tour de faire quelque chose avec cette œuvre. » Et le fait que moi, j'ai pris des acteurs non professionnels pour faire ces gens-là. Ben, c'est un peu comme si je leur passais le bâton aussi, puis je disais, c'est à vous de jouer. Donc voilà, il y a comme une roue qui tourne et c'est très Inou. En fait, les Inou sont très. Ils ont une pensée assez circulaire de autant dans le partage et tout ça. Donc si tu donnes au suivant, ben, c'est pas, ça ne va pas te revenir de la même personne, mais ça va faire un cercle et ça va finir par te revenir de l'autre côté. Donc, il y a une anecdote par rapport à ça. Dans un festival au Canada, à Windsor, on a gagné le prix du meilleur film canadien et ça venait avec une bourse de 10 000 $ canadiens. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire avec l'argent. J'ai fondé une bourse, ça s'appelle la bourse Kwesipan. Cette bourse sera donnée à un cinéaste autochtone du Québec. Donc, pour créer un film, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes derrière il n'y a pas beaucoup d'autochtones derrière la caméra. Et c'était pour poursuivre la réflexion, la démarche et tout. Et en même temps, il y a un côté Kwesipan encore, à ton tour de faire quelque chose maintenant. Voilà.
Très beau film que je vous conseille d'aller voir à sa sortie, donc le 13 mai 2020. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio d'ici.
Ah,
je vais redonner les informations. Donc, il s'agit d'un film qui s'appelle Kwesipan, qui est une histoire d'amitié entre Niquan et Shanice, d'après un roman original de Naomi Fontaine, que vous pourrez trouver en librairie, hein, qui est disponible en France. Mm-hmm. On remercie Léo à la technique. Et puis, c'est la fin du festival. Bientôt, nous allons savoir voir qui a reçu le prix, les prix, puisqu'il y a plusieurs prix. Donc voilà, à très bientôt. Suivez ça sur Radio d'ici. Au revoir.
Au revoir.
La vie est une valeur. décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. D'user de la cuirasse du silence ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. Interdite. Aimer sans amour.